Enquête spirituelle. Enquête spirituelle. Amy, Thomas et Laurent enquêtent tous les mercredis soirs en direct de 20h à 22h. Enquête spirituelle.
Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien ce soir pour une nouvelle émission d'enquête spirituelle. Comment ça va, Amy ?
Bah, j'ai un gros rhume, mais bon, ouais. Ça va, j'ai le moral.
On l'excuse pour ce soir parce qu'il y a le nez qui coule et tout. On espère que ça ira bien.
Mais oui.
Voilà. Et on a Marion, normalement, qui est en ligne. Comment ça va, Marion ?
Ce soir, parce que...
Elle regarde la télé en même temps, à mon avis. Elle est déconcentrée, c'est pas grave, on va la reprendre juste après. Et on a notre invité de ce soir. Bonsoir.
Bonsoir.
Tu vas bien ? On peut te tutoyer ?
Oui, sans problème.
Oui, sans voilà. Alors, tu vas nous parler ce soir, donc Patrick Leroux.
Oui.
C'est bien ça pour te présenter. Du Feng Shui.
Oui, de Feng Shui traditionnel, d'ailleurs, feng shui spécifiquement, traditionnel. Pour faire la distinction entre le Feng Shui occidental qu'on a l'habitude de connaître, mm-hmm. Qui est très, très commercialisé et très répandu de notre côté. Et donc, le Feng Shui traditionnel se différencie un petit peu de tout ça.
Ah, bah, tu nous expliqueras ça juste après Marion, qui j'espère est là. Maintenant, Marion, bonsoir.
Allô, bonsoir. Vous m'entendez ?
Ouais, t'étais occupée de regarder la télé, on voulait pas te déranger en fait.
Non, je suis désolée, je vous entendais en double, c'était un peu compliqué.
Voilà. Ah, mais maintenant tu es là. Alors ce soir, tu vas nous parler de quoi ?
On va parler encore d'écologie et de partage ce soir.
Eh bien, jingle, et c'est à toi.
Et ça me fait partie. Coaching d'un héros. Coaching d'un héros.
Coaching d'un héros, la rubrique où le héros, c'est toi, présenté par Marion.
C'est à toi, Marion.
Alors, j'ai un petit souci, j'ai un bug avec mon ordinateur, c'est ma soirée.
Ah bon, tu fais pas ça par cœur ? On pensait que tu faisais
ça. Ce serait bien, j'aimerais bien avoir ce talent oratoire. C'est bon, voilà, je suis prête.
Vas-y.
Alors, bonsoir à tous. Bienvenue dans Coaching d'un héros numéro 24, la rubrique qui révèle ton héros intérieur pour que tu puisses changer le monde. Nous parlons ensemble d'écologie depuis plusieurs semaines déjà. On a vu à quel point on ne peut envisager le futur sans une prise de conscience écologique et sans un passage à l'action individuelle et immédiat. Une des actions contre le gaspillage, c'est la récupération. Notre société, elle pousse à la surconsommation et ne se soucie pas des déchets. Par exemple, dans le domaine électronique, une imprimante coûte bien plus cher à être réparée qu'à être remplacée. Ainsi, on perd sans cesse de la matière première à une allure effrénée. Pour sauver la planète, on devrait arrêter de puiser plus que la Terre ne peut renouveler. Ça signifie économiser, préserver ce qu'on en a déjà sorti de la Terre, ralentir la création de biens matériels, mieux utiliser nos ressources, créer et acheter de la qualité plutôt que de la quantité. Et face au monde actuel déjà bien lancé dans le gaspillage, il faut récupérer les objets déjà créés pour leur donner une seconde vie. Réparer, transformer, recréer, magnifier. Nous pouvons faire énormément dès l'instant où nous refusons de nous plier aux vagues sans cesse nouvelles imposées par la mode, au toujours plus, au toujours neuf, à l'accumulation infinie de biens. Il est essentiel de revenir à une simplicité de vie. Ça implique de se libérer de cette soif de possession, de la recherche de valorisation de soi à travers les biens matériels, qui est quelque part une recherche d'amour. Mais l'amour, je vais vous dire une chose, l'amour vient de l'intérieur de nous-mêmes et il se dirige vers les autres, pas l'inverse. La première source d'amour de la société, du monde, la première source d'amour, c'est vous-même. Vous êtes la clé. Créez l'amour à l'intérieur de vous, créez-le pour vous, éprouvez-le. Ressentez-en la vérité, la plénitude. Ce n'est que ainsi que vous pourrez le partager et le faire ressentir à la hauteur de ce qu'il est réellement. N'ayez plus peur du vide, du manque, parce qu'en vous, il y a une possibilité d'abondance qui dépasse tous les biens matériels. Ne voyez plus le peu de biens comme de la pauvreté ou du manque, mais comme de la simplicité, de l'épurement. Sentez-vous comblé, satisfait, serein, en paix. Soyons riches d'amour, de passion, de créativité, de partage, d'entraide et d'humanité. C'est là le point de départ pour sauver la planète et créer un autre monde. C'est de là que naissent les plus belles initiatives. Pour vous donner des exemples de ce qui se fait dans ce domaine, dans le domaine de la récup et de l'anti-gaspillage, on peut citer, je vais vous en citer quelques-unes. Vous avez les boutiques de seconde main, on y achète des vêtements encore en bon état donnés par des gens qui n'en veulent plus, afin de leur faire vivre une deuxième vie pour un prix ridiculement bas. Pareil avec les objets, récupérés dans des décharges, sur les poubelles des trottoirs ou directement par des dons, ils sont retapés, avec plusieurs objets on en refait un, puis on les revend à bas prix, qui est accessible au plus grand nombre. Il existe également des initiatives de brocantes gratuites où les gens viennent donner leurs affaires au lieu de les vendre. C'est génial ça. On appelle ça des gratiférias. Il y a le covoiturage. Il y a des sites internet bien organisés où on s'inscrit si on veut proposer une place dans sa voiture pour un trajet. Ça permet aux autres de nous contacter pour partager le trajet avec nous. Ainsi, on gaspille moins d'essence et on a moins de frais de transport. Il existe le couchsurfing, ça permet de la même façon d'accueillir gratuitement chez soi pour une ou plusieurs nuits des voyageurs qui sont en déplacement pour des vacances ou pour le travail. Sur le même principe, on a l'échange de maisons pour des vacances. Ça permet par exemple de pouvoir se rendre en vacances à l'étranger sans avoir à payer l'hébergement qui sont souvent hors de prix. On peut parler aussi des jardins comestibles. En Angleterre, ça devient très en vogue. Des gens qui ont un jardin, ils plantent des fruits et légumes visibles de la rue et permettent à tous les passants de s'y servir à volonté. De la même manière, on peut citer les associations qui récupèrent les aliments jetés par les grandes surfaces et les redistribuent autour d'eux à ceux qui le veulent et à ceux qui en ont besoin. Et ce ne sont que les initiatives les plus courantes. Vous pouvez vous investir de multiples façons. Le don est formidable. Donner, on y récolte infiniment plus que lorsque l'on cherche à prendre. Le don entraîne le don et il nous pousse au meilleur. Pour conclure sur le partage, je vais vous lire une citation de Ted Trainer. Pour sauver la planète, nous n'avons pas besoin de percées technologiques miraculeuses ou d'énormes capitaux. Essentiellement, nous avons besoin d'un changement radical dans notre façon de penser et dans nos comportements. Merci de votre écoute. Vous pouvez retrouver mes vidéos sur www.change-le-monde.com et vous pouvez retrouver ma rubrique dans le magazine d'enquête spirituelle, le super magazine.
Merci Marion. Voilà, je n'ai plus rien à dire, tu dis tout. C'est génial. On te retrouve évidemment la semaine prochaine, même heure, même station, pour une nouvelle rubrique coaching d'un héros. On marque une petite pause musicale, on se retrouve juste après avec notre invité de ce soir, Patrick Leroux, qui va nous parler de Feng Shui traditionnel.
Enquête spirituelle. Enquête spirituelle. Chaque semaine avec Amy, Thomas et Laurent.
Et on est parti pour la première partie de cette émission de ce soir où on va parler de Feng Shui traditionnel avec notre invité, Monsieur Patrick Leroux. Tout d'abord, rebonsoir, parce que juste avant il y avait Marion. Tu nous disais juste avant donc le Feng Shui traditionnel, donc c'est parce qu'il y a plusieurs Feng Shui.
Je ne vais pas dire qu'il y en a plusieurs, mais il y a une base et puis des dérives, on va dire. Donc la base, j'ai envie de dire, c'est le Feng Shui traditionnel, c'est celui qu'on a retrouvé il y a des milliers d'années que les Chinois asiatiques ont créé de par leurs observations, etc., etc. Et donc, quand je parle de dérive, ça n'a aucun côté péjoratif, loin de là. Hein. Ça veut dire qu'on est parti sur des applications différentes, en tout cas peut-être plus appropriées à notre monde actuel. Et qui sont plus orientés vers la décoration que vers apporter des solutions réelles sur des problèmes, pas vraiment, mais sur du bien-être et ce genre de choses. Puisque quand on parle de Feng Shui traditionnel, on parle essentiellement de comment est-ce que je vais m'orienter, comment est-ce que je vais assurer les directions, quelle pièce est-ce que je vais occuper plus que d'autres pour que je me sente bien, parce qu'il y a des directions, des emplacements qui sont favorables à certaines personnes, défavorables, et ainsi de suite. Donc c'est une analyse poussée, c'est pour ça qu'on parle de Feng Shui traditionnel, parce qu'on analyse et on
fout. C'est un Feng Shui qui est au retour aux sources.
C'est ça.
C'est plus ça. Basé sur l'origine, en fait.
C'est ça. Donc je faisais et je vous disais juste avant que une des dérives, c'était finalement le Feng Shui occidental, ou qui partait plus sur la déco et qui donne une impression d'avoir une maison zen et agréable, etc., mais qui n'a pas la même finalité en soi.
C'est le Feng Shui qu'on connaît tous, je crois, c'est ça. Parce que c'est peut-être ça qu'on parle un peu plus dans les magazines ou dans les médias. C'est voilà comment c'est bien. Enfin, c'est pas forcément la décoration de la maison, mais peut-être plus placer les objets, etc.
C'est ça.
Mais le feng shui traditionnel le fait aussi.
Absolument.
Ouais.
Absolument.
C'est juste, c'est,
mais
c'est
on
plus
va
poussé.
Juste un peu plus loin, puisqu'on va analyser en fonction de la date de naissance, en fonction de la porte d'entrée, en fonction de, en fonction des habitants, en fonction de paramètres d'ailleurs.
Ouais. Avant de rentrer justement dans le détail, parlez-nous plutôt un peu de vous. Comment en êtes-vous arrivé à parler de du feng shui ou comment êtes-vous à arriver à s'intéresser à ça?
Certainement pas par hasard, parce que le hasard n'existe pas.
Ouais. Ça c'est sûr, on est tous bien d'accord là-dessus.
Un peu de fil en aiguille, je m'y suis intéressé en bouquinant. J'ai retapé il y a de ça une grosse dizaine d'années une maison et je me suis dit quitte à la refaire, je vais essayer de la faire pour qu'elle soit la plus agréable possible. Et donc forcément, de manière assez naturelle, en tout cas je suis passé par le feng shui, j'ai bouquiné et j'ai refait cette maison sur base de différents bouquins que j'ai retrouvés. Ceci étant dit, en bouquinant, je suis tombé sur des choses qui ne collaient pas, sur des incohérences, sur des choses que je n'arrivais pas à mettre d'application. Et donc j'ai continué de toute façon dans cette direction-là avec les informations que j'avais. Et donc j'ai terminé cette maison avec les infos que j'avais à ce moment-là. Mais après, j'ai voulu aller plus loin parce que j'avais envie de fouiller, j'avais envie de chercher, j'avais envie de trouver surtout. Et donc je suis tombé sur Bernadette Arvan, qui est formatrice en feng shui. En fait, elle est experte en feng shui traditionnel. Elle est formée elle-même à la Wuji Academy, qui est dirigée par maître Nicolas Hardy, donc en Suisse. Donc c'est vraiment un maître feng shui, donc qui a des années d'expérience et de constats, d'analyse et de contact avec d'autres experts et maîtres. Voilà, j'ai suivi ma formation chez elle pour aller plus loin et donc trouver des réponses à toutes les questions que je me posais. Et là, effectivement, j'ai trouvé des réponses et aucune incohérence par rapport à ce que je mettais en place, en tout cas.
D'accord. Et en fait, il y a des niveaux dans le feng shui, c'est bien ça vous dites. Donc il y a des maîtres, il y a des gens qui enseignent, où tout le monde peut devenir, je sais pas si on dit ça, maître feng shui. Vous, par exemple, vous êtes quoi?
Moi, je suis consultant en feng shui, c'est-à-dire que mon niveau de formation me donne la possibilité de donner des conseils, d'analyser des maisons, d'analyser des environnements et de donner des conseils sur justement les meilleures solutions, en tout cas par rapport à des questions que des gens se pourraient poser. Après ça, on peut passer sur une expertise, on peut passer sur un niveau de formateur. Pour être maître en feng shui, je ne pense pas qu'il y en ait en Belgique. Mm-hmm. Je ne pense pas qu'on ait la configuration de paysage non plus pour qu'on ait suffisamment d'expérience pour devenir maître en feng shui, parce que vraiment, quand on analyse en profondeur le paysage, l'environnement, on va chercher des montagnes, on va chercher des fleuves, et en Belgique on a un terrain qui est relativement constant, je veux dire, à part la mer d'un côté et les quelques centaines de mètres qu'on a du côté des Ardennes, le paysage n'est pas super super vallonné et ne permet pas non plus des tonnes de variations, même si, attention évidemment, d'une région à une autre, on peut considérer qu'on a des montagnes en fonction des bâtiments, etc. Mais donc un maître en feng shui, d'abord c'est pas un titre, c'est
une appellation.
C'est une appellation en fonction de l'expérience qu'on peut avoir effectivement dans le feng shui à proprement parler.
D'accord.
Très peu de maîtres en feng shui à proprement parler, hein, sont vraiment dans des années d'expérience, d'expertise, de pratique et voilà.
D'accord. Il y a une question sur le chat, j'ai vu Amy.
Oui, on nous demande depuis combien d'années le feng shui a fait son apparition en Belgique et en France. En Europe en général, on va dire.
C'est très difficile à dire. En gros, on a commencé à le voir beaucoup plus précisément dans les années 80. C'est vraiment dans ces années-là qu'on a commencé à en parler beaucoup plus. Maintenant, le feng shui traditionnel, il existe depuis plus de 5000 ans avant Jésus-Christ. Donc, donc c'est assez récent. Depuis vraiment allez, les années 80, on commence à en entendre parler beaucoup plus et à le commercialiser beaucoup plus, en tout cas. Mais encore une fois, on parle beaucoup plus encore de feng shui, je dirais, et j'utiliserai par facilité de feng shui de décoration, donc où on met une plante à un certain endroit, mais ça peut avoir son effet, mais il y a en feng shui en tout cas des choses qui sont très importantes et la première chose importante c'est l'environnement, et donc ça, quand on parle de feng shui, il y a 70% des actions qui se font en dehors de la maison et les 30 autres pourcents à l'intérieur.
Ah oui.
Ouais, ça, c'est une donnée avec laquelle il faut faire.
D'accord.
D'accord. Donc ça, plus actuellement, c'est un effet de mode, on va dire, qui est revenu par rapport aux années 80. Vous dites par rapport qu'on parle plus au feng shui, du feng shui pour le moment, quoi.
Je pense. Il y a un effet de mode derrière, oui, bien, immanquablement.
Alors, rentrons dans le vif du sujet maintenant. Que peut-on faire avec le Feng Shui pour quelqu'un qui s'y connaît pas? Voilà, je m'y connais pas du tout, je fais appel à vous par rapport à ma maison, ou alors, est-ce que c'est peut-être par rapport à d'autres choses que l'habitation?
Mais je crois d'abord que, allez, il faut recibler un peu le Feng Shui dans sa globalité. Quand on parle de Feng Shui, on parle d'abord de la pensée taoïste. Et donc, quand on parle de pensée taoïste, on parle aussi de trois chances. Donc, on parle de la chance du ciel, la chance de l'homme et la chance de la terre. Donc la chance du ciel, bah, c'est finalement un peu tous les avantages ou en tout cas toutes les caractéristiques qui nous sont apportées à notre naissance. La chance la chance de l'homme, c'est un petit peu tout ce qu'on fait de sa vie, ce sont toutes les décisions qu'on prend en fonction de notre vécu, en fonction de nos expériences. Je vais utiliser un mot qui va certainement vous parler, mais en fonction de nos croyances aussi, aussi globales qu'elles puissent être. Et puis la chance de la terre, bah, c'est là-dessus que le Feng Shui va travailler. Et donc on va travailler sur l'environnement à proprement parler. Alors, qu'est-ce qui peut nous apporter? Bah, finalement, c'est un tiers des trois chances qu'on peut avoir. Donc ça, c'est déjà une chose. Qu'est-ce qui peut nous apporter? Bah, il peut nous apporter... Maître Yap disait, le Feng Shui vous apportera la chance. La chance globale, parce que finalement, il vous apportera de la santé, il vous apportera de l'amour, il vous apportera... Moi, j'ai envie de dire... Il apporte de la prospérité à proprement parler. Et quand je dis de la prospérité, c'est au sens large, donc au sens du
bien-être. C'est pas uniquement financier.
Voilà,
quoi.
Absolument, absolument. C'est pour ça que j'ai appelé aussi mon site Feng Shui et prospérité, justement, parce que le terme est très très large.
Ah oui, d'accord. Et donc dans une habitation, après sans dévoiler tous vos secrets, bien évidemment, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Une base, par exemple, une grande base que tout le monde devrait faire, que les gens ne font pas.
La première chose à faire, c'est regarder l'environnement. Je vous le disais, 70% du feng shui, de la qualité de vie, vient de l'environnement. Et donc, la première chose à faire,
par
c'est...
Par exemple, une maison qui est isolée ou une maison qui est entre deux maisons, une maison de rangée, etc. Ça, ça a une importance.
Absolument, une maison qui est isolée. En fait, qu'est-ce qu'on regarde dans l'environnement? On regarde l'arrière de la maison, on regarde la gauche de la maison, la droite et l'avant de la maison. Et donc, on va dire, sur l'arrière, en termes général, on dit qu'on a besoin d'une montagne pour assurer la santé et pour assurer l'assise de la maison. Et puis sur la gauche et la droite, on a besoin aussi de deux montagnes, mais qui sont un petit peu plus basses. Et puis sur l'avant, on a besoin de quelque chose de dégagé pour offrir une perspective d'avenir. Allez, je vais dire, ce sera pour être très général et très facile à comprendre.
D'accord.
Maintenant, dans la maison, la première chose à faire, c'est regarder la direction de la porte d'entrée. Parce qu'une direction de porte d'entrée, quand je dis une direction, c'est est-ce qu'elle est orientée vers le nord, d'abord, de manière générale, le nord, l'est, l'ouest ou l'est. Et puis après, on va subdiviser ces quatre points cardinaux en trois plus restreints. Donc on a 360 degrés sur une roue complète et on va diviser à chaque fois par 15 degrés. Et donc cette porte d'entrée doit nous être favorable pour apporter une énergie, donc le chi dont on parle en Feng Shui, apporter une énergie favorable. Ça c'est la première chose à faire, c'est la chose la primordiale à faire puisque c'est par là que toute l'énergie de la maison rentre finalement puisque... En faisant la distinction, attention, quand on parle de porte d'entrée, ce n'est pas celle où il y a la sonnette, où il y a le numéro, c'est celle qu'on utilise le plus fréquemment. Oui. Quand on parle d'une porte d'entrée, ça peut très bien être la porte du garage, alors que la porte d'entrée est utilisée par les visiteurs.
Oui. Et si on rentre
par
derrière,
c'est vraiment celle qu'on utilise fréquemment.
D'accord.
Voilà, ça c'est le premier conseil à faire. Et puis à l'intérieur, organiser ses pièces de vie en fonction des régions, des secteurs qui sont favorables. Puisque quand on fait une analyse Feng Shui, on prend le plan de la maison, on le divise en 9 secteurs. Et dans ces 9 secteurs, on détermine ceux qui sont favorables et ceux qui ne le sont pas. Et on essaye de trouver des solutions par rapport à ceux qui ne le sont pas, soit en mettant du feu, soit... Enfin bref, il y a pas mal de techniques qui permettent effectivement d'inverser un secteur et de le rendre favorable. Déplacer une table, déplacer des chaises pour que les personnes, en fonction de leur goût, donc de leur chiffre déterminé par la date de naissance, soient aussi dans des emplacements et des directions qui sont favorables. Et là, on va rentrer dans le terme beaucoup plus technique.
Eh bien, on va marquer une petite pause musicale. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette émission. À tout de suite.
Enquête spirituelle. Enquête spirituelle. Enquête spirituelle. Le podcast, rendez-vous sur notre site www.enquête-spirituelle.com.
Amy de poser une très bonne question à notre invité hors antenne, et ça serait bien d'en faire profiter nos invités.
Oui, alors donc vous parliez des directions favorables à l'individu qui vit dans la maison, mais s'il y a plusieurs individus dans la maison, est-ce qu'il peut y avoir des différences?
Ben oui, effectivement, et c'est un cas de figure qu'on rencontre fréquemment, notamment dans un couple. Évidemment, l'homme et la femme n'ont pas forcément les mêmes directions et emplacements favorables. Donc en fait, il faut savoir qu'en Feng Shui, on distingue deux grands groupes, en tout cas au niveau des personnes, ce qu'on appelle les gens du groupe Ouest et les gens du groupe Est. On les distingue évidemment en fonction de leur date de naissance. C'est la date de naissance qui donne un gua.
D'accord.
Et le gua détermine si on est du groupe Est ou du groupe Ouest. Et donc effectivement, on se retrouve avec des cas de figure où l'homme et la femme n'ont pas le même groupe. Donc on a un groupe Est et un groupe Ouest. Et comme je vous disais, bah, on ne dort généralement pas avec les pieds de son conjoint au visage. Donc
c'est pas conseillé.
On pourrait, hein, mais je ne suis pas convaincu que ce soit favorable au couple.
Il n'y a quand plus même... de Feng Shui qui vient intervient après. C'est un autre problème.
Donc, et c'est quand même un des objectifs. C'est, l'amour est quand même un point important aussi dans le Feng Shui, puisque c'est un des points pour lesquels les gens ont tendance à nous appeler aussi. C'est, tiens, voilà, il y a des problèmes à ce niveau-là. Est-ce que vous pouvez m'apporter une solution? Et le but n'étant pas effectivement de faire dormir chacun avec les pieds de l'autre dans le visage, c'est pas du tout le but. Donc, comme je disais, on répartit la maison en 9 palais, donc on coupe la maison en 9 parties, de manière virtuelle, bien entendu, hein, donc on prend le plan et on le divise en 9 parties.
Est-ce que les étages ont à voir par rapport à ça?
On prend étage
par étage. Ou alors on divise
l'étage
le sol. C'est chaque fois en 9 en fait.
Absolument. Okay. Donc en fait, l'analyse qu'on fait, on la fait étage par étage, en sachant que c'est évidemment le rez-de-chaussée qui. Enfin, on prend la partie la plus grande de la maison. Mmh. Puis cette partie-là, c'est notre base pour diviser en 9 parties.
D'accord.
En sachant que toutes les maisons ne sont pas carrées. La forme de la maison idéale en Feng Shui, c'est soit le carré, ça c'est vraiment ce qu'on appelle le carré d'or, donc la forme idéale, ou le rectangle. Parce qu'on a un peu moins de pertes entre guillemets. Maintenant, avec les nouvelles constructions, on a souvent effectivement un espace qu'on appelle chez nous en Feng Shui traditionnel un espace manquant, donc un palais qui manque. Donc on a une maison qui est en forme de L par exemple, et bien il y a des secteurs qui ne sont pas remplis. Il faut savoir que chaque secteur aussi représente un membre de la famille, il représente aussi une partie du corps, et donc quand on a un espace manquant, bah, ça veut dire que cette personne dans la famille aura plus de mal à trouver sa place, et donc il faut essayer de compenser aussi en lui trouvant une direction qui est plus forte, un emplacement qui lui est favorable, et donc aussi on va favoriser justement ces personnes qui sont dans un espace manquant à proprement parler, de manière virtuelle.
Ah oui, parce qu'il y a toujours moyen de combler en fait. Peu importe,
oui,
que quelqu'un ait plus de mauvais secteurs que d'autres, il y a toujours moyen d'équilibrer ça.
Toujours non, mais de manière générale, oui, parfois la seule solution c'est de déménager, parce que la maison est tellement mal configurée à la base que la seule solution c'est vraiment de déménager. En tout cas, c'est la meilleure.
Ouais. Ça doit être rare quand même, je suppose.
Oui. Mais encore une fois, elle est sincèrement la partie la plus importante, c'est vraiment le paysage autour, puisqu'on travaille sur 75% de l'énergie à proprement parler sur le Feng Shui. Après, ce qu'on fait à l'intérieur, évidemment, mieux vaut le faire que de laisser comme ça. Si on constate qu'il y a quelque chose qui n'est pas positif, autant le modifier et y apporter et le mettre, le tourner pour que ce soit plus favorable, bien entendu. Mais l'essentiel est vraiment à l'extérieur.
D'accord.
Donc les points d'eau, les cours d'eau, et assimiler, bien entendu, puisque en Feng Shui, dans notre culture habituelle, on a rarement devant chez soi un cours d'eau, on a rarement devant chez soi un lac. Et donc on assimile à un cours d'eau, par exemple, une route. Et donc plus elle est fréquentée et plus elle est yang, puisque en Feng Shui on a aussi cette notion de yin et de yang. Le yang étant très dynamique et le yin étant plus posé. Et donc pour revenir à l'environnement, on dit que l'arrière doit être plus yin pour être plus reposant, puisqu'il représente la santé et donc l'apaisement, etc. L'avant doit être plus yang. Encore une fois, ce sont des généralités. Et chaque maison doit être analysée individuellement, vraiment.
Ouais. Bah, tout dépend, après c'est voilà, tout est différent aussi.
Oui.
Chacun n'a pas la même maison.
Oui.
Heureusement.
Exactement. Chacun n'a pas la même maison, et puis chacun n'est pas né à la même date non plus, parce qu'on pourrait imaginer un cas de figure d'une cité, par exemple. On dit chacun n'a pas la même maison, mais dans une cité, il y a quand même beaucoup de maisons qui se ressemblent. Et donc on pourrait dire, bah, le Feng Shui c'est le même chez mon voisin que chez moi. Oui et non, de manière globale, au niveau de la maison presque, mais au niveau des individus et de la manière dont ils occupent la maison et l'espace, non, du tout.
Tout à fait.
Par contre, au niveau macro, je vais dire. Donc si on va une quinzaine de kilomètres autour de la maison, alors oui, on peut dire que c'est exactement la même chose, puisqu'il n'y a pas de... La maison d'à côté reste la même dans une cité, bien entendu.
Et est-ce que la position géographique en tant que telle de la maison a à voir quelque chose dans le feng shui? Par exemple, une maison qui est ici en Belgique et une autre maison qui est dans le sud de la France, qui serait par exemple même identique, est-ce que ça va changer des choses?
Oui, dans la mesure où effectivement c'est l'environnement qui fait la différence. Et donc dans le sud de la France, imaginons une maison qui est sur la Côte d'Azur et qui est tournée vers la mer, mm-hmm. avec à l'arrière et qui sera, enfin quand on parle de la Côte d'Azur, je vais prendre plutôt l'exemple où on part vers les Pyrénées. Mm-hmm. Donc imaginons cette maison qui est dirigée avec la façade et la porte d'entrée vers la mer et l'arrière vers les Pyrénées. On a une configuration en façade et à l'arrière qui est idéale, puisque mm-hmm. on a devant de l'eau, ce qui est très favorable, très yang au niveau de l'énergie. À l'arrière, on a une super montagne. Enfin, encore faut-il qu'elle ne soit pas trop abrupte. Mais au niveau de la configuration globale, à l'avant et à l'arrière, on a quelque chose d'intéressant. Donc, prenez cette même maison, mettez-la face à la mer du Nord. On aura effectivement une mer devant. Par contre, à l'arrière, au niveau de la montagne, on va être un peu limite quand même.
Oui. Pas beaucoup de montagnes en Belgique, malheureusement, on ne peut pas encore skier. Et est-ce que est-ce que vous travaillez dans le feng shui sur les réseaux? Dans le sens, les réseaux Hartmann ou des choses comme ça, est-ce que ça, vous voyez peut-être pas du tout ce que c'est?
Absolument pas.
Donc bon, alors, je vais laisser tomber la question.
En même temps, ça répond à la question, hein, puisque.
Oui, d'accord, bah, ça n'y répond pas. Effectivement, enfin.
Ça répond à la question, si je ne sais pas ce que c'est que je ne travaille pas avec.
Parce qu'il y a des gens, enfin, qu'on a déjà reçus dans les émissions, justement, qui travaillent là-dessus. En fait, c'est des réseaux qui traversent, la terre entière, en fait.
Hein, en sous-sol, alors.
Voilà, qui sont pas forcément en sous-sol, où il y a des nœuds parfois. Il ne vaut mieux pas se situer dans la maison, etc. Non. Donc c'est un peu similaire au feng shui.
Alors, ce dont on tient compte en feng shui, c'est, je vous ai parlé des cours d'eau, je vous ai parlé des routes, vous me parlez de nœuds. Effectivement, l'emplacement d'une maison par rapport à un cours d'eau ou une route de manière plus facile chez nous a son importance. Par exemple, on ne mettra pas une maison dans une route à l'extérieur d'un tournant, parce que le feng shui n'est pas, le qi n'est pas favorable du tout à cet endroit-là. Donc ça rejoint un peu cette idée-là. Il y a une autre information importante en feng shui, c'est que ce qui ne se voit pas n'agit pas. Donc, ce qui se passe en sous-sol ne concerne pas le feng shui. On va peut-être parler en termes de géobiologie, et là, on peut apporter des solutions à ce niveau-là, mais pas en matière de feng shui. Et c'est en même temps quelque chose d'intéressant quand on dit que ce qui ne se voit pas n'agit pas. Ça veut dire que c'est aussi une solution. Par exemple, si on a ce qu'on appelle un charchi, donc une énergie qui est négative, une antenne, un pylône ou ce genre de choses, en le cachant simplement, on
diminue déjà l'atténuation.
Oui, c'est ça, on diminue son influence.
Ah oui, d'accord.
Donc en termes de solutions, c'est intéressant aussi.
Oui, bah, il faut les connaître, hein. Ça, vous êtes là pour ça aussi. C'est pour ça qu'on vous appelle. Il y a des questions sur le chat.
Oui. Est-ce que le feng shui est bénéfique également pour une activité professionnelle?
Absolument, absolument. Et dans une activité professionnelle, on va travailler sur deux pôles, puisqu'il faut savoir que forcément, quand on travaille, en règle générale, quand on travaille, c'est rarement chez soi. Donc on a un lieu, on va dans un bureau, enfin bref, dans un autre endroit que chez soi. Alors dans ce cas-là, on analyse les deux endroits, à la fois la maison et à la fois le lieu de travail. Maintenant, quand on analyse le lieu de travail, plus on monte dans la hiérarchie, plus le feng shui est intéressant, est important. C'est-à-dire que un exécutant, sans être péjoratif du tout, mais quelqu'un qui exécute le travail aura moins d'importance au niveau du feng shui qu'il va apporter que le grand patron de la société. Donc si vous êtes indépendant et si vous travaillez tout seul, forcément c'est votre analyse dans votre bureau et chez vous qui va être primordiale. Si on prend une multinationale où il y a des milliers de personnes qui travaillent, analyser le feng shui de chacun devient utopique. On va se retrouver avec des contradictions importantes. Maintenant, c'est vraiment le big boss qui va déterminer puisque c'est lui qui prend les décisions en matière de stratégique par rapport à l'entreprise. C'est son analyse à lui qu'on va faire, mais alors on va le faire effectivement sur son lieu de travail et sur son domicile.
D'accord. C'est bien de le savoir.
Toujours sur le même principe, le même principe. Donc, quelle est la porte d'entrée? Quelle est la direction de la porte d'entrée? Est-ce que cette porte d'entrée lui est favorable, aussi bien chez lui qu'au bureau? Quelle est la direction de son bureau à proprement parler? Est-ce qu'il est dans un bon emplacement dans son bureau par rapport au bâtiment, etc., etc., etc.
D'accord.
Donc, c'est une double analyse.
Oui, très précis aussi.
Absolument.
Très, très important. Et justement, comme on parle un peu de bureau, de maison, etc., est-ce que le, bah, je suppose que oui, mais est-ce que les couleurs sont importantes? Les couleurs qu'on peut utiliser, que ce soit sur les murs ou sur des cadres ou les plantes, ça joue aussi parce que c'est de la couleur verte. Donc, est-ce que c'est important?
En feng shui, on parle d'éléments. Donc, il y a l'élément bois, il y a le feu, il y a l'eau, il y a la terre, il y a le métal. La première chose qui est importante, c'est l'élément en lui-même. Donc, par exemple, si on veut travailler sur du métal, si on a besoin d'un métal à un certain endroit, on va favoriser le métal. Puis, ce métal est représenté par une forme, une couleur, un goût. La couleur a moins d'impact que l'élément en lui-même. Mmh. Donc, la couleur, c'est quand même beaucoup plus de la décoration qu'un effet réel.
D'accord. Donc, le fait de mettre une couleur... dans une maison, dans une cuisine, etc., comme peu importe la couleur, ça ne va pas changer grand-chose.
Sincèrement, oui.
Ok. Justement,
le rouge représente le feu. Mm-hmm. Hein, en règle générale, le rouge représente le feu. Donc, mettre du rouge à la place d'une cheminée n'aura pas du tout d'effet. Par contre, mettre une cheminée avec un feu qui fonctionne régulièrement, ça a de l'effet.
D'accord.
Donc, si vous avez envie de mettre du rouge à un endroit ou du vert à un autre, faites-le franchement à votre aise.
D'accord. C'est toujours bien important de le savoir parce que justement avec le feng shui qu'on voit un peu partout de décoration, ça conseille toujours beaucoup même, enfin dans ce que j'ai lu,
j'ai des
livres là-dessus, ça conseille beaucoup les couleurs
absolument
à apporter, etc. Ouais. Bon après je suppose qu'il y a quand même de la logique de l'être humain de ne pas mettre n'importe quoi, n'importe où.
Mais oui, il y a des gens
pas
qui
mettre de la fluo, etc.
Allez, j'ai déjà rencontré des gens qui disaient oui mais moi on m'a conseillé de mettre du rouge à tel endroit et puis ils mettaient un rouge vif parce que c'était vraiment c'était le rouge qui était le plus représentatif pour eux. Et au bout de 3 mois, ils étaient épuisés parce qu'ils ne voyaient que ce rouge-là et nerveusement, ça a eu l'effet inverse, quoi. Donc,
D'accord. Alors, il y avait encore une autre question sur le chat. Je ne sais pas du tout ce que c'est, mais peut-être vous allez nous en dire plus. Quelle est la différence entre le feng shui et le vastu ou vastu? Ça doit être une autre pratique.
Je ne sais pas. Bon, je ne connais pas le vastu non plus.
Je ne connais pas non plus.
Voilà. D'accord.
Si on va demander une précision à ce sujet-là.
Voilà. On demande des précisions, c'était à Michael Lelançois, donc si tu peux nous expliquer ce que c'est, on peut peut-être à ce moment-là parler de la différence. Y a encore une autre question qui vient de s'ajouter justement, Amy, par rapport aux couleurs, mais bon, peut-être que notre invité ne sera pas y répondre. Est-ce que le vert peut être une couleur qui rend nauséeux, qui rend malade?
Ça c'est une question de perception. Encore une fois, en feng shui, comme je disais, mettez la couleur avec laquelle vous vous sentez le mieux. Je ne pense pas que ce soit la couleur qui rende malade. Vraiment.
Tant mieux.
Il va y avoir une source ailleurs, mais certainement pas la couleur.
D'accord. On fait une petite pause musicale, on se retrouve après pour la troisième partie de cette émission, Enquête spirituelle.
Enquête spirituelle. Enquête spirituelle. Enquête spirituelle. Découvrez tous les sujets pour ouvrir votre spiritualité. Faites-vous votre propre avis. Nous laissons la parole à nos invités.
Et notre invité de ce soir est Monsieur Patrick Leroux, spécialiste en feng shui traditionnel, je précise. Et Amy avait une question, mais je vais la poser à sa place parce qu'elle a le nez un peu mouillé. Un petit peu d'humour, ça fait du bien. Quelles sont les personnes qui viennent vous consulter le plus souvent?
Mais on a assez souvent des gens qui ont le nez bouché, qui viennent nous voir pour trouver une solution assez rapide. Malheureusement, ça prend un peu plus de temps. Ce qu'on a régulièrement, c'est les deux points principaux, c'est soit des problèmes d'argent, soit des problèmes de relations. Donc, quand je dis relationnel, c'est aussi bien amoureux que relationnel au sens large, avec une relationnel entre parents-enfants, par exemple, ou ce genre de choses.
D'accord.
Ce sont vraiment les deux points les plus importants.
Et on vient rarement vous voir alors pour du bien-être dans la maison, ou alors ça vient s'ajouter?
C'est parce que je crois que c'est une conséquence en fait. Le bien-être est une conséquence ou en tout cas une solution par rapport à ces problèmes-là. Mais dire voilà, je voudrais me sentir bien chez moi, c'est rarement le cas. Oui, il y a des gens qui sont, une fois qu'on fait une conférence, il y a des gens qui sont interpellés et qui se disent ouais, tiens, effectivement, moi j'ai fait ça, est-ce que finalement c'est bien? Et donc, qui se disent bah tiens, effectivement, est-ce que quand vous dites bien-être, en fait, vous entendez quoi exactement? C'est je me sens mal dans ma maison et donc je voudrais me sentir mieux.
Exactement.
A priori, j'ai rarement entendu ça, ouais, vraiment. Donc c'est vraiment pour j'ai problème relationnel, problème d'argent, est-ce que vous pouvez m'apporter une solution?
C'est intéressant. Et on parlait tout à l'heure donc des couleurs, on vous a répondu à la question. Est-ce que par contre les formes ont quelque chose d'important dans le feng shui? Par exemple, dans une maison, comme vous dites, la forme carrée est importante pour la maison en elle-même. Mm-hmm. À l'intérieur, est-ce qu'il faut absolument mettre des formes carrées, une table rectangle ou alors une table ronde, c'est bien?
Ça dépend des secteurs et ça dépend de ce qu'on a envie de faire dans ce secteur, puisque en fait chaque forme représente un élément. Comme je disais tout à l'heure, en fait c'est l'élément qui est déterminant et puis la forme. Et donc effectivement, quand on sait allier l'élément et la forme, bah, on gagne sur deux tableaux, bien entendu. Maintenant, si on veut mettre du métal, utilisons le métal plutôt que la forme ronde. Si on met une boule de comment s'appelle ce jeu, une boule de criquet qui est en bois, on a à la fois du bois et une forme ronde. Donc on a à la fois le bois qui est représenté dans son élément et on a à la fois la forme ronde du métal. C'est quand même le bois qui va prendre le dessus sur la forme, parce que c'est l'élément qui est primordial, mais la forme a son importance, bien entendu. Donc autant avoir les deux. Je vous disais tout à l'heure, une boule de pétanque c'est très utile parce qu'on a à la fois une grosse masse de métal et on a à la fois la forme ronde, donc ça c'est quelque chose d'intéressant.
Ok, donc il suffit de placer une boule dans un endroit bien précis de la maison, ça va équilibrer quelque chose en quelque sorte.
Voilà, dans une certaine mesure en tout cas, parce que je vais revenir souvent là-dessus en disant que effectivement l'extérieur a beaucoup d'importance par rapport à ce qu'on peut faire à l'intérieur, parce que c'est primordial de le savoir. Je reviens encore sur ce pourcentage de 70% qui agissent à l'extérieur plutôt qu'à l'intérieur, et donc effectivement oui, on peut agir sur un micro-espace avec ce genre de choses, mais l'élément déterminant c'est quand même l'extérieur.
D'accord. Et la circulation d'énergie, moi j'ai lu par rapport au feng shui justement que c'est ce qui permet peut-être de réguler ça, dans le sens où l'énergie rentre dans la maison par la porte d'entrée. Il faut éviter des fois certaines choses par rapport à l'escalier, que l'énergie ne monte pas tout de suite à l'étage, etc. Je suppose que c'est aussi quelque chose de très important.
On a des éléments effectivement qui sont activateurs en feng shui. Un escalier par exemple, c'est un élément activateur. Donc avoir imaginons qu'on ait un escalier dans une zone ou un emplacement qui vous est défavorable, il va activer ça. Dans le même sens, effectivement, si l'escalier est dans un emplacement qui vous est favorable, il va activer d'autant plus cet emplacement et ce côté favorable. Je parlais tout à l'heure d'éléments favorables et d'éléments favorables. On a en feng shui 8 types d'énergie. Il y en a 4 qui sont favorables et 4 défavorables, avec une certaine gradation et avec des actions sur l'argent et des actions sur les relations et des actions sur la santé, etc. Par facilité, chacune de ces énergies a un nom chinois, qui est du chinois pour nous aussi d'ailleurs. Et donc par facilité pour nous, on les a catégorisées en les numérisant. Donc l'énergie la plus défavorable, on l'appelle du moins 90, et puis on va sur du moins 90, moins 80, moins 70, moins 60. Et puis dans les énergies positives, on va dire du plus 60, plus 70, plus 80, plus 90, en sachant que le plus 60, c'est une énergie qui est adoucie, plus calme, qui va permettre de se ressourcer après une longue période de maladie, par exemple. C'est aussi une énergie qui va vous intéresser, parce que c'est une énergie dans laquelle on va placer le lit d'un enfant, d'un nouveau-né, parce qu'il est dans une évolution qui est sereine, calme, posée, etc. Et le plus 90, c'est ce qui symbolise la richesse, vraiment la prospérité, l'énergie dynamique, etc. Avec entre les deux, évidemment, le plus 70 et le plus 80 dans des niveaux de relationnel, etc.
Ok. Qu'en est-il, ça va sûrement être lié à ça, qu'en est-il des miroirs? C'est souvent déconseillé dans ce que je lis.
C'est en tout cas déconseillé dans les chambres. Parce que le miroir a cet effet de reflet, de renvoyer l'énergie et de lui donner quelque chose de dynamique. Donc effectivement, dans une chambre, on a besoin d'une énergie plus yin, donc plus calme. Et donc effectivement, mettre un miroir qui va activer l'énergie n'est pas le bienvenu.
D'accord. Donc c'est principalement dans une chambre. Je suppose que de toute façon, dans une salle de bain, c'est quelque chose pas de primordial dans le feng shui, mais primordial pour nous.
Oui, voilà, ça, c'est sûr. Oui, ouais, non, c'est pas gênant. Voilà.
C'est pas gênant. Ce
là où c'est gênant, c'est quand on retrouve un miroir juste face à la porte d'entrée. Parce que quand il est face à la porte d'entrée, évidemment, on a toute l'énergie qui arrive comme ça.
Et qui repart aussi vite, à ce moment-là.
Qui repart aussi vite et qui prend plus de force et donc qui n'est pas, ça, c'est pas le bienvenu non plus.
D'accord.
C'est vraiment deux endroits, je veux dire, où on n'a pas intérêt à avoir des miroirs. Au-dessus du lit, c'est pas le bienvenu non plus. Je pense qu'on a envie de faire, hein, bien entendu, mais
il y en a peut-être qui le font déjà. On voit des fois dans les films, etc., qu'ils ont des miroirs au-dessus d'eux, mais c'est, ça reste du cinéma. Hein. On le précise. Et par rapport, vous parliez des plantes tout à l'heure. Tout le monde a des plantes dans sa maison. Moi, je vois parfois les vieilles grand-mères qui ont toujours plein de plantes dans une maison. Je ne suis pas sûr que ça doit être bon.
C'est pas absolument mauvais non plus, ça dépend de la quantité de plantes. Tout est question de quantité, en feng shui aussi. Si votre maison se transforme en serre tropicale et où il n'y a plus que des plantes,
j'en ai déjà vu, c'est pour ça que je le dis.
Mettez plutôt des serpents, ce genre de choses. Ça devient plus un vivarium qu'une maison, j'ai envie de dire. Il faut trouver un juste équilibre. Alors, il y a des plantes effectivement qui sont plus grasses, mais ça, nature, je veux dire, les plantes plus grasses vont absorber une énergie. Donc, en mettre à côté d'une télévision, par exemple, c'est très bien. Et puis dans les plantes aussi, on a des formes. Donc il y a des feuilles qui sont beaucoup plus pointues et donc qui sont plus agressives, qui vont être moins favorables, j'ai envie de dire. Donc ça dépend vraiment des plantes, ça dépend des endroits où on les met. Voilà.
D'accord.
Pour revenir sur des emplacements et sur les espaces dont on parlait tout à l'heure, sur les palais, il y a des pièces qui sont, on parlait de d'activateurs, etc. Le WC par exemple et la salle de bain sont deux pièces très importantes parce que c'est par là que l'énergie s'en va.
Ouais.
Donc mieux vaut effectivement que ces pièces soient situées dans des emplacements qui nous sont défavorables parce qu'elles permettent d'évacuer une énergie qui est défavorable de manière générale et schématisée.
Tout à fait.
Pareil pour la cuisine, on va la placer dans un endroit, la cuisine, on cuisine généralement donc dans une cuisine en règle générale.
C'est toujours mieux.
Donc il y a du feu, il y a de la chaleur et donc on va la placer dans un secteur particulier aussi.
C'est souvent à l'opposé de la porte d'entrée, je crois, c'est ça. Pas l'opposé, mais le plus loin.
C'est pas obligatoire.
Non.
C'est pas obligatoire. Il n'y a pas de règle générale à ce niveau-là, donc on ne dit pas la cuisine doit être à l'opposé de la porte d'entrée, non du tout. Elle doit juste être au bon endroit et dans un bon emplacement. Donc quand on parle de direction, d'emplacement... Et les portes d'entrée, les portes des pièces ont aussi leur importance. Donc, je suis venu avec un Luopan. Donc, c'est une boussole chinoise qui va permettre de mesurer des directions bien précises. On parlait tout à l'heure de 360 degrés et de division en 15 degrés. Eh bien, on va mesurer également les portes d'entrée. On va mesurer la direction d'une chaise, d'une table. On va mesurer la direction d'un four. On va mesurer la direction d'une toilette, la direction on va regarder dans une salle de bain où se trouve la douche, par où l'eau s'évacue, est-ce qu'elle est dans un secteur qui est favorable ou non. Dans ces pièces-là, on peut même refaire une analyse plus spécifique en redivisant cette pièce en 9 palais. Et là, on est dans plus du micro feng shui en disant, là, on est dans un palais qui est favorable dans cette pièce-là. Donc, on peut aller vraiment
on peut pousser très loin.
Dans du micro feng shui, j'ai envie de dire.
D'accord. Justement, vous parlez des toilettes, c'est un détail, mais on conseille souvent de fermer tout le temps la cuvette.
J'ai un conseiller. Oui. Et la porte aussi.
Pour éviter la... Oui, de toute façon. J'ai lu ça, en fait, pour éviter toujours la perte d'énergie. Comme vous dites, c'est un endroit où on évacue l'énergie, forcément.
Tout à fait.
C'est peut-être une base, mais...
Tout à fait.
C'est un problème aussi d'homme et de femme, ça, toujours. Tu fermeras la cuvette, eh bien, il y a une raison derrière.
Exactement.
C'est une raison feng shui, voilà.
Vous avez anticipé ma remarque.
On peut l'entumer là-dessus, voilà. Alors, on fait une petite dernière pause musicale, on se retrouve pour la dernière partie de cette émission. À tout de suite.
Enquête spirituelle. Enquête spirituelle. Chaque semaine avec Amy, Thomas et Laurent.
Et de retour pour cette dernière partie de cette émission Enquête Spirituelle, émission qui se termine d'ailleurs, mais juste avant de se quitter, notre invité va vous communiquer bien ses coordonnées, justement les gens qui veulent faire une consultation, c'est ça qu'on dit ?
Oui, on peut appeler ça comme ça.
Une consultation, comment fait-on pour vous contacter ?
On peut toujours passer par mon site, donc www.fengshui-prosperite.net. Donc c'est bien un tiret et pas un underscore. Voilà. Fengshui-prosperite.net.
Feng Shui en un mot.
Absolument.
Voilà. Et on trouve toutes les informations sur votre site.
Oui, toutes les infos. Il y a mon numéro de GSM. Il y a un point de contact aussi par là. C'est vraiment, à mon sens, le point le plus simple.
Vous pouvez donner aussi votre numéro de GSM pour les gens qui nous écoutent.
Absolument.
Qui n'ont pas forcément envie d'aller sur Internet.
Absolument. 0475-937-367.
Voilà. Comment ça se passe pour une consultation ? Les gens vous contactent et vous prenez rendez-vous ? Vous vous déplacez chez les gens ?
Absolument. Je me déplace un peu partout dans la Belgique. Dans la Flandre, c'est un petit peu plus compliqué. Mais je pense pas qu'on touche des de ce côté-ci.
Dans le nord de la France.
Le nord de la France sans aucun problème. Je peux aller jusqu'au sud du pays sans aucun problème. Donc vraiment, je n'ai pas de limite à ce sujet-là. La première chose, c'est donc on prend un rendez-vous, je viens, on discute effectivement de ce qui va se faire. Il faut prévoir 2 heures à peu près pour le premier entretien, tout simplement parce que il faut analyser toutes les pièces, prendre des mesures dans les différentes pièces avec le Luopan. Discuter, parce que la discussion est très très importante, il ne suffit pas d'arriver, de constater et point, voilà, la discussion avec les gens est très importante, leur historique etc, l'avis de chacun en gros, de chaque personne qui vit dans la maison, voilà. Et puis voilà, après on avance.
Merci beaucoup, parce que le temps passe, on arrive à la fin de cette émission.
Merci
beaucoup.